cours d'économie.
Désormais, les investisseurs peuvent se faire une idée sur ce dont ils ont exactement besoin et sur les espaces propices à l'investissement en RDC. L'ANAPI vient de publier deux documents contenant ces informations spécifiques. 5 hectares de plantations de riz et maïs détruits dans les périphéries d'Ouvira dans le sud Kivu. Les cultivateurs qui accusent des grandes pertes ne savent à qui s'en prendre car les auteurs de cette dévastation ne sont autres que des vaches en divagation. La réalisation de la cimenterie de la province orientale reste d'actualité. Dans une pétition, une centaine des jeunes de Kisangani plaident pour ce projet qui peut résoudre certaines difficultés socio-économiques de la province orientale. Bonsoir et bienvenue à tous. Investir dans l'agriculture et l'industrie en RDC, ce sont deux cahiers sectoriels que l'Agence nationale pour la promotion des investissements a présenté hier à la presse à Kinshasa. Selon le directeur général de l'ANAPI, ces documents donnent des informations spécifiques dont l'investisseur a besoin sans nécessairement se déplacer. Le DG de l'ANAPI, le professeur Boaboa Kaembe, l'explique au micro de Daniel Tambinzoni.
Ce que nous voulons communiquer au monde des affaires, c'est que en fait, ils peuvent maintenant disposer des informations fiables et spécifiques pour prendre la décision d'investir en RDC. Parce que avant de monter un projet ou bien de s'installer dans un pays, on a besoin de faire une étude de faisabilité. Et pour cela, on a besoin d'une gamme d'informations. Nous avons sélectionné les informations les plus importantes que recherchent les investisseurs dans ces deux secteurs, dans l'industrie, dans l'agriculture, et sur notre pays, sur l'étendue, l'ensemble de l'étendue du territoire national pour les inciter à venir s'installer et à développer des projets au pays.
Professeur, qu'est-ce que l'ANAPI entend par investisseur? Parce qu'on a comme impression que lorsqu'on parle des investisseurs, on ne voit que des étrangers, des expatriés qui doivent venir investir au Congo. Est-ce qu'on peut aussi prendre la dimension investisseurs nationaux?
Oui, nous prenons toujours la dimension investisseurs nationaux. Mais en fait, un investisseur, c'est un commerçant comme tous les commerçants ici, c'est un entrepreneur qui se propose de produire des biens et des services au Congo. Il y a des Congolais qui sont également des investisseurs, mais il y a des étrangers qui sont également investisseurs. La loi ne demande pas de faire la discrimination vis-à-vis de l'un ou l'autre. Votre question peut-être veut dire qu'il y a peu de... On constate qu'il y a quand même peu. Si on prend par exemple la Gombe, dans l'immobilier, la plupart des grandes bâtisses ici appartiennent à des étrangers. Là, il faut partir de l'obstacle à ces situations-là. L'obstacle pour les Congolais, c'est l'inexistence notamment de crédits, de financement.
En parlant de l'investissement national, après plus de 20 ans d'existence en République démocratique du Congo, la chaîne de distribution congolaise Pelustore veut encourager l'entrepreneuriat local et promouvoir la visibilité des produits fabriqués en RDC dans les grandes surfaces commerciales. Sur ce, d'une part, elle souhaite bénéficier en tant qu'employeur congolais avec plus de 300 employés congolais à son actif des avantages d'un fils du terroir et d'autre part, elle invite les investisseurs à proposer des produits respectant les normes commerciales, comme l'explique ici le directeur des opérations à Pelustore, Olivier Ndombassi.
Tous ces entrepreneurs qui viennent avec des produits fabriqués et produits localement ici au Congo, donc je les reçois dans mon bureau tous les lundis à partir de 8h du matin d'ailleurs déjà. On examine ensemble leurs produits et s'il y a des conseils à les prodiguer en termes peut-être d'emballage ou de l'habitude que les clients ont sur un certain produit ou l'attente qu'ils ont et ensuite à partir de là, on va sur le produit. On s'était dit que Henri Cochet serait été une bonne opportunité pour nous d'aider ces Congolais à promouvoir et leur donner un espace pour étaler leurs produits. Mais on est dans un environnement congolais, c'est dur. On a peut-être pas accès au financement, par exemple, comme on le voudrait. Il faut absolument que l'entrepreneur congolais se sente protégé au Congo. Il faut qu'on se dise que voilà, on est à la maison et que d'une certaine manière, c'est simple. On va banaliser l'exemple. Et il faudrait que je sois en mesure de dire que voilà, je suis quand même chez moi à la maison, c'est chez nous. J'ai droit à une chambre et toi, t'es un étranger, mais t'as pas droit à la chambre parce que voilà, tu n'es pas chez toi. Mais bon, si je vais chez toi, je comprends automatiquement que bon, voilà, c'est chez toi. Donc je ne vais pas demander une chambre à mon nom. Et il faut absolument que ce soit la même chose. Je ne sais pas, on a des pays comme l'Afrique du Sud ou comme tant d'autres où, par exemple, quand vous êtes étranger, d'office, quand vous commencez une compagnie, il faut absolument qu'un certain pourcentage soit assigné à un autochtone.
5 hectares de plantations de riz et maïs détruits par des troupeaux des vaches dans les périphéries d'Ouvira. D'après le secrétaire du micro-projet Rizicole et Vivrier Machaka qui livre cette information, des troupeaux des vaches en divagation sont à la base de cette situation. La même source ajoute que depuis cette attaque des troupeaux, les cultivateurs surveillent leurs champs en vue d'empêcher toute nouvelle intrusion de bêtes dans leurs champs. Les conséquences de cette dévastation avec Gaius Chabilepa.
La perte des cultures de riz et maïs est suite à la destruction par les troupeaux de vaches et des 12 à 16 tonnes de riz. Selon le secrétaire du micro-projet Rizicole de Machaka, la perte touche environ 9 tonnes de maïs. Kudeto Analutangula évalue le manque à gagner à 5 500 $ américains pour la cinquantaine de cultivateurs du secteur de Machaka. Pour lui, il n'y a pas d'espoir de récolter du riz et du maïs à cette saison culturelle. Crainte est partagée par des sources du comité des éleveurs d'Ouvira. L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage d'Ouvira dit ne pas être au courant de cette situation. Selon Yves Dounia, aucune plainte n'est arrivée à son bureau par les cultivateurs sur la dévastation des champs. Toutefois, il promet de s'impliquer dans les dossiers de ces champs dévastés par les vaches. Selon des sources locales à Machaka, ces bêtes proviennent des hauts plateaux d'Ouvira. C'est là en quête du pâturage. Ouvira, Gaius Chabilepa, Radio Le Messager du Peuple pour Radio Okapi.
Suivez-vous toujours, le maire de la ville de Bukavu annonce des projets de réhabilitation des infrastructures de base pour la ville. Il s'agit de la réhabilitation de deux marchés urbains, celui de Niawera et le grand marché de Kadutu, ainsi que l'éclairage public à l'énergie solaire. Les projets entrent dans le cadre du programme de développement urbain financé par la Banque mondiale en faveur de 6 villes congolaises. Le marché de Kadutu devra être réalisé à hauteur de 1 600 000 $. Celui de Niawera, qui venait de connaître un incendie, le sera à raison de 600 000 $. C'est sur un fonds de 8 millions de dollars américains offert pour la ville de Bukavu dans le cadre de ce projet. Le maire de Bukavu, Philemon Yogolelo, au micro de Michel Chirimwami.
Nous avions choisi un certain nombre de projets qui doivent être réalisés durant l'année 2015. Et parmi ces projets, il y a effectivement la réhabilitation non seulement du marché de Niawera, mais du grand marché urbain aussi. Et donc, le grand marché urbain, l'enveloppe que nous avions proposée était de 1 600 000. Pour le marché de Niawera, c'est, je crois, 600 000 $ aussi. Aussi, nous avions déposé le projet de l'éclairage public par énergie solaire. Vous savez que nous faisons face à beaucoup de camps d'insécurité ici. Et vérification faite, le constat qui a été fait pendant nos réunions du Conseil de sécurité urbain, c'est qu'il y a aussi ce problème de manque d'éclairage public dans la nuit. Et nous avons pensé que, évidemment, avec toutes les difficultés que la SNEL connaît actuellement, nous avions pensé que nous pouvons peut-être envisager l'éclairage public par énergie solaire. C'est dans quoi nous sommes. Les amis de la Banque mondiale ont accepté cette proposition et nous avons pu déposer aussi un dossier à ce sujet-là. Mais aussi, nous avons pensé que nous pouvions, avec ces reliquats-là, il est possible de pouvoir, n'est-ce pas, asphalter notre tronçon. Nous avions pensé l'avenue Fizi avec la bretelle de Mimosa.
Écho d'économie.
En province orientale, certains groupes et associations des jeunes de Kisangani sont montés au créneau pour dénoncer l'incertitude qui plane dans la réalisation de la cimenterie de la province orientale, Siport en sigle. Dans une pétition signée hier par une centaine des jeunes, ces derniers demandent aux décideurs politiques du pays de mettre tout en œuvre pour la matérialisation de ce projet. Leur souci est de voir se réaliser le projet Siport en vue de résoudre un tant soit peu certaines difficultés socio-économique de la province orientale. Willy Lokomba, coordonnateur de la cimenterie de la province orientale, parle ici de l'importance économique de cette industrie. Il est au micro d'Aliana Alipanagama.
Les activités économiques principales sont constituées de la production, distribution et consommation. Il y aura augmentation de production à travers beaucoup d'entreprises qui vont naître. D'abord, à travers la cimenterie elle-même, elle va augmenter très sensiblement sa production par rapport à la situation d'avant. Il y aura résorption du chômage. Dans un premier temps, on va commencer avec au minimum 300 agents pour les emplois directs. Et il y aura plusieurs emplois indirects parce qu'on va installer des dépôts de distribution pratiquement dans tout le pays et on va payer des commissions aux gens qui vont travailler là-bas. En amont, par exemple, il y aura naissance des industries nouvelles et augmentation des revenus des industries existantes qui vont fournir, par exemple, les matières premières, certaines matières premières comme le gypse. Les sociétés pétrolières vont augmenter leur production. Il y aura, par exemple, des gens qui vont fournir des matériaux de construction, ainsi de suite. En aval, il y aura naissance, par exemple, des industries qui ont un rapport direct avec les travaux de construction, par exemple, les industries de carrelage, tout ça. Donc, c'est une industrie complète qui contribue très sensiblement à la croissance économique.
Et la province orientale a justement eu du mal à réaliser ses projets au cours de l'exercice budgétaire 2013. Le gouverneur Bamani Sall l'a déclaré hier à Kinshasa au cours d'une assemblée générale de ressortissants de la province orientale. Selon lui, c'est parce qu'elle n'a pas reçu ses rétrocessions. À ce jour, le gouvernement central lui doit plus de 6 millions de dollars américains de redevances minières. C'est dans ce cadre qu'une délégation de députés provinciaux, membres de l'ECOFIN, sont sur place à Kinshasa pour interpeller les autorités budgétaires. Les propos du gouverneur Bamani Sall sont recueillis par Nadine Fulansimba.
Cette année a été assez catastrophique en termes de rétrocession et le gouvernement provincial a eu beaucoup de mal de pouvoir exécuter plusieurs projets qui avaient été retenus parce que les moyens n'ont pas suivi. Nous sommes d'ailleurs en bonne symbiose avec l'Assemblée provinciale qui aussi est en train de faire une démarche envers le gouvernement central pour pouvoir capter les ressources dues à la province orientale. Il s'agit notamment de la redevance minière sur laquelle la province a droit à 1%, donc soit 40% des 2,5%. À ce jour, le gouvernement central nous doit plus de 6 millions de dollars et nous espérons pouvoir retirer quelque chose puisque nous n'avons jamais rien reçu en rétrocession pour pouvoir faire face dans notre plan d'investissement et de réalisation de différents projets. Si nous n'avons pas ça, nous allons mettre en place un mécanisme pour déchoir les droits de ceux qui détiennent aujourd'hui des titres et qui ne les exploitent pas. Nous avons aussi dans notre politique prévu la formation des entreprises publiques qui vont faire des joint ventures avec des entreprises privées. C'est le cas notamment de l'Autokila.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Martin Sibou-Jangwe, mise en onde par Sylvain Matundu et suivie par vous. Merci.